Bonsoir à tous. La SADC a noté qu'il ne sera pas possible d'organiser les élections en RDC en décembre 2017 en raison d'un certain nombre de défis. C'était le week-end dernier à l'issue du 37e sommet de cette organisation sous-régionale. Et puis, des organisations de la société civile de la RDC et quelques mouvements citoyens ont signé la semaine dernière à Paris, en France, un document appelé « Manifeste du citoyen congolais » pour réclamer le départ de Joseph Kabila au plus tard le 31 décembre 2017. Ce sont les deux thème de la tribune de presse de ce vendredi 25 août 2017 et je m'en vais saluer Harold Badibanga. Bonsoir. Harold Badibanga, bonsoir, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute, je dis bonsoir.
Voilà, vous êtes journaliste indépendant basé à Kinshasa. Dominique Dinanga, bonsoir.
Bonsoir Béry Franklin.
Vous êtes journaliste à la radio Top Congo FM, émettant ici à Kinshasa. Et puis Jean-Baptiste Badera, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la radio-télévision Canal Futur, émettant à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonsoir aussi à Polydor Basunga qui assure la mise en onde de cette édition. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette tribune de presse. Voici maintenant la tribune de presse, la revue de presse que nous présente Alain Irung, à qui je dis aussi bonsoir.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Commençons par la réunion des membres du bureau politique de la majorité présidentielle à Kingakati, présidée par Joseph Kabila. Au cours de cette réunion, le président de la République a exhorté les membres du bureau politique de la MP à ne pas se laisser distraire par les sirènes qui cherchent à tromper l'opinion, indique l'avenir. Le Soft International fait remarquer que le principal objectif de cette réunion était de présenter au président Kabila le centre de coordination des élections, la centrale électorale de la MP. L'élection des gouverneurs dans certaines provinces a aussi attiré l'attention de la presse chinoise. Le potentiel estime qu'en annulant sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle l'élection du vice-gouverneur de la province de l'Équateur, la CENI a créé une jurisprudence qui met à mal la MP dans sa tentative d'une nouvelle consolidation de sa présence dans certaines provinces. Dans la province de la Chuapa, le gouverneur Cyprien Lomboto, également de la MP, couvert par un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en sa faveur, veut rester. Mais la MP a déjà actionné via la CENI la procédure de son éviction. Dans un tout autre chapitre, Forum des As note tout de même que la Chine a compati au malheur qui frappe la RDC après la mort de plus de 200 personnes lors de l'éboulement de Tara. Vers l'évaluation tripartite 2017, le report des élections confirmées titre la prospérité. Le journal note qu'après l'évaluation tripartite entre le CENSA, la CENI et le gouvernement fixé au 27 août, la CENI publiera un nouveau calendrier pour la tenue de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Elle intégrera dans cette démarche les options de cette évaluation, y compris tous les obstacles qui n'auront pas facilité les choses pour prendre cette fois-ci le temps nécessaire à l'organisation des bonnes élections, note le quotidien. Cindy Kadokolo, gendre du président angolais et riche collectionneur d'œuvres d'art, a lancé un mouvement citoyen à Paris et est l'un des signataires d'un manifeste visant à empêcher le président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Sur RFI, l'homme a nié toute visée politique dans son engagement pour son pays. La République démocratique du Congo rapporte le potentiel qui relaie et commente une interview que Cindy Kadokolo a accordée à la radio française. Le manifeste citoyen, un engagement des Congolais qui n'ont pas l'ambition d'accéder au pouvoir. L'avenir n'y croit pas. Or, il y a déjà Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, avec les ambitions affichées de Cindy Kadokolo, qui incarnera alors la figure de l'opposition après Étienne Tshisekedi, s'interroge pour sa part Forum des As, qui fait remarquer qu'à l'approche de l'élection présidentielle, l'opposition congolaise s'apparente à un monstre à plusieurs têtes.
Merci beaucoup Alain Irung. Alors, avant d'entamer les sujets qui ont retenu les débats de ce soir, un petit commentaire sur une actualité qui a retenu votre attention, Dominique.
Merci beaucoup Béry Franklin et bonne soirée à tous les auditeurs de la radio Okapi. Voilà, il y a eu beaucoup de faits d'actualité qui ont bel et bien retenu mon attention, mais je vais parler de l'élection des gouverneurs dans certaines provinces où la CENI estime, la CENI bien sûr, de mèche avec le ministère de l'Intérieur estime qu'il y a vacances Voilà, l'élection est maintenue. Nous sommes déjà à moins de 24 heures déjà. Et ça étonne un tout petit peu parce que la Cour constitutionnelle avait déjà pris un arrêt réhabilitant les gouverneurs, notamment dans la province de la Chiapas, Cyprien Lomboto qui a été réhabilité. Il y a également le cas de Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga. Voilà. C'est plus tard, hier, que j'apprendrai que la CENI venait d'être notifiée par la Cour constitutionnelle par de ces arrêts, bien sûr. Voilà, même malgré ces notifications,
il y aura quand même élection.
Nous nous demandons ce qui va se passer exactement au niveau de l'Équateur. L'élection a été annulée pour la même raison que la Cour constitutionnelle avait réhabilité la vice-gouverneure. Nous allons tous attendre ce qui va se passer. Est-ce que la Cour constitutionnelle va valider les résultats de ces élections? C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Et nous allons voir si ça sera un bras de fer entre la Commission électorale nationale indépendante, une institution d'appui à la démocratie, avec la plus haute cour du pays.
Merci beaucoup.
Qui vivra verra.
Voilà. Harold, qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long de cette semaine?
En fait, la revue de presse qui a été faite tout à l'heure est tellement riche qu'elle a beaucoup de sujets, mais comme l'obligation m'est faite de choisir une actualité, je prends directement cette réunion de la majorité présidentielle autour de son autorité morale, avec la centrale électorale de la majorité présidentielle, qui prouve à suffisance réellement que ceux qui pensent, à tort bien sûr, que Joseph Kabila et sa majorité ne veulent pas aller aux élections, ont cruellement tort et font ce que l'on appelle en droit un mensonge cousu au fil blanc sur un tissu noir, parce que là, l'autorité morale de la majorité présidentielle a recommandé à ses camarades, au fait les membres du bureau politique de cette méga plateforme politique en République démocratique du Congo, de préparer sérieusement les élections pour les remporter. Et deux jours après, il y a eu même une réunion dans ce sens-là et toutes les questions ont été abordées, y compris la question du Dauphinat, vous vous en doutez bien. Et donc, je pense que ceux qui pensent que Joseph Kabila ne veut pas aller aux élections et qui font des suppositions d'une manière ou d'une autre doivent se calmer dans ce sens que là, il y a des preuves réelles de la volonté de la majorité présidentielle d'aller aux élections. Et si l'opposition pense, à mon humble avis, que c'est dangereux que la majorité présidentielle n'aille pas jusque-là dit qui est son candidat à l'élection présidentielle, je crois que c'est une situation qui lui profiterait. Mais je me demande pourquoi cette opposition s'agite lorsqu'elle constate qu'en face d'elle, il n'y a pas encore un candidat.
Merci beaucoup. Alors Jean-Baptiste, vous êtes à Bukavu. Qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine chez vous à Bukavu?
Oui, c'est comme dans toutes les provinces concernées par les élections des gouverneurs. Ce sont ces élections qui dominent l'actualité toute cette semaine ici à Bukavu, vous le savez. C'est déjà une véritable veille d'armes parce que le scrutin se tient demain ici à Bukavu pour l'élection d'un nouveau gouverneur. Mais déjà, la campagne s'est passée et c'est au bureau de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI que la campagne s'est déroulée. Et cela a même poussé un certain nombre de députés de bouder cette campagne électorale au motif que c'est en dehors des normes que la campagne ne doit pas se tenir dans les bureaux de la Commission électorale indépendante, mais plutôt au sein de l'hémicycle qui, malheureusement, comme je l'ai dit la semaine passée, est occupé déjà depuis plus de deux semaines par des grévistes qui, du gouvernement provincial du Sud-Kivu sortant et qui demandent les paiements de plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Et donc, ils ont décidé d'investir l'hémicycle ici à Bukavu. Et c'est un des motifs qui a poussé les députés provinciaux à délocaliser la plénière et d'aller la faire au niveau du bureau de coordination, au niveau du bureau de la Commission électorale indépendante. Et en tout cas, c'est ça l'actualité. Ces candidats vont donc se disputer les postes de gouverneur et ça va donc être un véritable challenge demain ici à Bukavu.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Place à présent à notre premier thème de la soirée. Il ne sera pas possible de tenir les élections en 2017. C'est ce qu'a noté Jacob Zuma, président en exercice de la SADC, au terme du 37e sommet de cette organisation sous-régionale, tenu en Afrique du Sud d'ailleurs, dimanche dernier. Par conséquent, le sommet a demandé instamment à la Commission électorale nationale indépendante de la RDC de faire connaître le calendrier électoral révisé. Des précisions avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans son mot, le président en exercice de la SADC affirme avoir noté avec satisfaction la relative tranquillité politique et sécuritaire dans la région, avec des défis notables dans le royaume de Lesotho et en République démocratique du Congo. Concernant la RDC, le sommet a noté qu'il ne serait pas possible de tenir des élections en décembre 2017, affirme Jacob Zuma. Ce, en raison d'un certain nombre de défis qui touchent actuellement l'attention, souligne-t-il. Par conséquent, ajoute le président sud-africain, le sommet a demandé instamment à la Commission électorale nationale indépendante de la RDC de faire connaître le calendrier électoral révisé. Pour Jacob Zuma, le sommet a également approuvé la nomination d'un envoyé spécial de la SADC en RDC au niveau d'un ancien chef de l'État. Il y a des consultations visant à finaliser cette question, précise-t-il.
Si à la majorité présidentielle on salue ces déclarations, l'opposition politique, notamment l'UDPS, a qualifié de provocation les récentes déclarations de Jacob Zuma, président en exercice de la Communauté des développements d'Afrique australe. Pour l'UDPS, Jacob Zuma ne peut pas prendre la place du peuple congolais. Merci donc à Michel Kifinda de nous avoir brossé cet état des lieux. Harold Badibanga, vous êtes journaliste indépendant basé à Kinshasa. Quelle lecture vous faites de la déclaration ou de la note qu'a fait la SADC?
Écoutez, merci pour la question, mon cher frère. Moi, je suis en train de regretter le fait que cet avis simple qui n'engage pas le peuple congolais venant non seulement du président Jacob Zuma, mais aussi de la SADC, arrive à créer des problèmes là où on ne devait pas créer, dans la mesure où ce n'est pas la Commission électorale nationale indépendante qui s'est prononcée quant à ce. Je pense que de la même manière que la République démocratique du Congo, avec en son sein l'opposition et la majorité, peuvent émettre un avis sur ce que fait la CENI sans que cet avis soit contraignant, la communauté internationale au niveau de la sous-région et même au niveau le plus haut donc de l'ONU, cette communauté, disais-je, peut toujours émettre un avis. Mais la réalité est ailleurs. La réalité est telle que ceux qui ont signé les accords, tant au niveau de la Cité de l'Union africaine qu'au niveau du centre interdiocésain autour des frères des évêques, et je voulais bien sûr parler de ces accords dits de la Saint-Sylvestre, ont apposé leur signature sur des papiers qui disaient clairement qu'au cas où, au 31 décembre, il n'y a pas élection, il est possible que la CENI, le gouvernement et les SENSA se réunissent pour une petite évaluation pouvant faire que nous allions aux élections peut-être au mois d'avril 2018. Donc, il ne faut pas qu'au sein de l'opposition congolaise, on pense que l'on peut nier et renier ces signatures à tout moment. Il faut également qu'au niveau de la majorité présidentielle, ceux qui se réjouissent du fait que Jacob Zuma a émis ce point de vue-là, pensent que ce n'est pas Jacob Zuma qui décide en lieu et place de l'homme politique congolais, encore moins en lieu et place du peuple congolais.
Harold, laissez-moi vous couper un tout petit moment. Voici ce que pense Kipo Kajaps, qui nous écrit depuis Moba. Il dit ceci: cette instance devait attendre la réunion tripartite CENI-SENSA-gouvernement avant de se prononcer sur cette question. Une telle attitude laisserait croire à l'opinion que la SADC appuie sans étude approfondie les idées préconçues du pouvoir de Kinshasa au lieu de s'atteler à chercher les solutions à entreprendre afin de relever les défis dont elle parle. Comment vous réagissez?
Non, mais c'est ça l'erreur que commettent mes compatriotes. Lorsque ce compatriote pense que la SADC devrait inévitablement attendre l'avis ou la position concertée entre la CENI, le gouvernement et le SENSA, c'est une erreur grossière dans la mesure où la SADC n'est pas liée par ce qui se passe. Mais en tant que structure sous-régionale, elle peut quand même émettre un point de vue qui n'est pas une décision. Donc, je reviens sur ce que je dis et je le dis pas sans rire. Ceux qui, au niveau de l'opposition, tirent à boulet rouge gratuitement sur la SADEC du fait qu'elle a émis ce point de vue, commettent une erreur grossière et ça prouve qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire.
Merci beaucoup.
En tant que politique congolais.
Au sein
de la majorité, ceux qui pensent qu'il faut se réjouir comme si cet avis de la SADEC est une décision qui va s'appliquer sur la CENI, c'est une blague.
Je vous redonne la parole. Dominique Dinanga, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa. Comment vous analysez les déclarations de Jacob Zuma, président de la SADEC?
Merci beaucoup, Mary Franklin. Je veux d'abord attirer l'attention sur une chose. C'est parmi les missions de la SADEC, il y a celle de protéger la démocratie dans la sous-région quand elle est menacée. Mais nous savons, malheureusement, que les chefs d'État africains ont du mal à lier l'acte à la parole, les écrits officiels aux actes même qu'ils posent. Moi, ce qui m'étonne, c'est plutôt cette inaction des chefs d'État africains face à la crise en République démocratique du Congo, qui ne fait que faire de mort, la situation n'est fait qu'empirer.
Ce qui veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'Harold Badibang est en train d'affirmer.
Je ne suis pas d'accord avec ce que Harold venait de dire tout à l'heure, parce que nous sommes devant une situation. D'abord, Jacob Zuma qui va très vite en besogne, il va déjà prendre acte de l'impossibilité d'organiser les élections bien sûr en République démocratique du Congo d'ici le 31 décembre, alors qu'il y a un accord signé par tous les acteurs politiques, ceux de la majorité présidentielle, de l'opposition, dont le Rassemblement et de la société civile, l'accord qui stipule tout simplement que les élections doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre.
Mais l'accord
a ouvert, bien sûr, je n'en disconviens pas, l'accord a bien sûr ouvert une brèche au cas où la CENI serait dans l'impossibilité d'organiser les élections avant cette date. On dit que c'est la tripartite. La tripartite, je répète bien, la tripartite, CENI, gouvernement et SENSA qui doivent donc tirer les choses au clair et la déclaration sortir de là.
D'accord. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans cette impossibilité-là?
Nous savons bien qu'il y a impossibilité d'organiser les élections le 31 décembre, mais avant de tirer toutes ces conclusions, faut savoir d'où vient cette impossibilité. Moi, j'ai toujours dit que c'est un problème de volonté politique. Si le pouvoir en place, si les acteurs politiques en place avaient bien sûr la volonté d'aller aux élections.
Mais vous avez entendu,
je vous dis qu'on irait aux élections même trop tôt.
Mais vous avez entendu quand même Harold souligner dans la revue de presse d'Alain Hirung la présentation de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Donc c'est une volonté quand même que la majorité veut aller aux élections.
Vous savez, il ne faut pas se fier généralement aux apparences ou aux discours. Nous savons que l'homme politique, ça c'est ça même le prototype de l'homme politique congolais. Il dit le contraire de ce qu'il fait, donc il vous fait croire qu'il a la volonté d'aller aux élections, mais dans les actes qu'il pose, ça ne reflète aucune intention donc d'aller aux élections. Donc lier l'acte à la parole, ça c'est vraiment difficile à l'homme politique congolais. Je vous assure, ça c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi. Avec l'absence de volonté politique, même au mois d'avril, on n'aura pas ces élections.
Alors, voici la réaction de Samuel Cohen Bachigue qui nous écrit de Bukavu. Il dit ceci, je trouve bien que cette position de la SADEC est réaliste, mais aussi elle s'invite par l'irresponsabilité de notre opposition, la fragilité de notre société civile et la politique totalitaire de la majorité présidentielle. Qu'en pensez-vous?
Tout le monde est responsable dans cette situation, mais à différents degrés. La première responsabilité incombe au pouvoir en place. La deuxième responsabilité, c'est à l'opposition incapable de se mettre ensemble et celle qui est en train de se laisser manipuler, accompagner le pouvoir dans ses ambitions de s'éterniser donc
au pouvoir.
Au pouvoir, bien sûr. Voilà. Société civile, je me suis toujours demandé s'il en existe une place.
Je vous redonne la parole. Jean-Baptiste Badera, je rappelle que vous êtes directeur de la radio-télévision Canal Futur et mettons à Bukavu, au sud Kivu. Comment à Bukavu les déclarations de Jacob Zuma ont-elles été analysées?
Oui, ces déclarations ont été analysées différemment. C'est comme à Kinshasa, il y a certaines personnes de la majorité, certains acteurs politiques qui ont salué ces déclarations, mais bien sûr du côté de l'opposition, on a donc dénoncé cette façon de parler de Jacob Zuma. Pour certains, il n'est non seulement pas le porte-parole de la CENI, mais aussi la situation dans laquelle il se trouve actuellement dans son pays, l'Afrique du Sud, ne lui donne pas en tout cas le visa pour chercher à donner un quelconque conseil par rapport au processus démocratique en République démocratique du Congo. Et on se pose la question de savoir si Jacob Zuma pourrait tenir le même langage pour d'autres pays qui ont même tenu des élections dans des conditions très très difficiles par rapport à celles dans lesquelles se trouve aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc, en tout cas, ce n'est pas une déclaration qui a été trop saluée ici à Bukavu, et je pense que là, c'est très malheureux parce que, comme l'a dit mon confrère de Top Congo, la SADC a entre autres comme rôle c'est de défendre la démocratie, mais déjà avec de telles déclarations, on sent qu'il y a un penchant quelque part, ce qui est très malheureux. Et sans, comme on le sait, c'est difficile qu'on puisse comprendre que, en tout cas, le pays manque totalement des moyens pour aller aux élections, mais c'est plutôt la mauvaise foi. J'ai dit la semaine dernière que l'année passée, en 2016, il y a des candidats députés qui avaient déposé leur caution pour la tenue des élections ou à la députation provinciale, mais ça n'a pas été fait. Et on n'a jamais justifié le motif, le seul qu'on avait donné, et qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour organiser ces élections-là. Et la situation aujourd'hui, le contexte actuel avec l'élection des gouverneurs montre suffisamment que le pouvoir actuel n'a aucune intention d'organiser les élections même en 2018. Et je crois que c'est vraiment des signaux qui montrent qu'il n'y a aucune volonté de ce côté-là. On ne peut pas prétendre que un pays qui prétend aller aux élections dans 6, 7 mois ou dans 3 mois, on puisse encore organiser des élections de gouverneurs pour une durée de 3 mois. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que la population peut attendre des gouverneurs qui vont faire 3, voire 5, 6 mois? C'est donc là des signaux qui montrent qu'il n'y a aucune, en tout cas, intention d'aller aux élections. Et même la façon dont la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, est en train de vivre face à la CENI montre suffisamment que, en tout cas, il n'y a pas de choses sur lesquelles on peut penser, des choses positives qui caractérisent la CENI pour l'organisation des élections. Je crois que la chose la plus importante serait de voir, par exemple, la CENI organiser ou publier un calendrier avec les différentes contraintes, quitte à ce que les acteurs politiques et tous les acteurs concernés puissent se mettre ensemble pour toiletter ces contraintes et voir dans quelle mesure on peut organiser les élections. Mais avoir la tergiversation avec laquelle la CENI est en train de jouer, c'est là qui montre que franchement, il n'y a pas de volonté d'organiser les élections. C'est même là la base de beaucoup de mouvements qui sont en train de se créer. Ça est là pour dénoncer la mauvaise foi d'aller aux élections. C'est donc ça la situation, surtout que dans sa dernière sortie en Europe, on avait suivi Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, annoncer que dès son retour au pays, il va annoncer, ou mieux, il va publier ce calendrier, mais qu'elle n'a rien fait. Voilà donc tout ce qui montre qu'en tout cas, il n'est pas clair qu'on puisse espérer en l'entendu des élections si en tout cas on reste dans la même logique qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Voilà, alors Jean-Baptiste, à vous entendre bien et même à entendre Dominique, vous revenez plus sur la volonté politique du pouvoir en place d'organiser les élections, mais comment vous réagissez à cette réaction de Benoît Chongo et à Chongo de Tchoumbe qui dit « Nous devons être tous d'accord avec la position de la SADC, car rien ne sert à courir, il faut partir à point, même si on n'est pas mathématicien ou technicien, comment la CENI peut organiser les élections dans peu de jours alors que la première opération, qui est celle de la révision du fichier électoral, n'a pas encore pris fin dans certaines provinces. »
Mais ce n'est pas à cet auditeur de dédouaner la CENI. La CENI a son porte-parole et la CENI, de la bouche de son président en Europe, à Paris, je crois, il a lui-même bien dit qu'au retour au pays, il va faire la publication de ce calendrier, mais jusque-là, rien n'est fait. Ce n'est pas à une tierce personne qui n'est pas acteur dans la CENI pour dire cela.
Alors,
tout
ça
le monde
signifie...
constate, en tout cas, beaucoup de gens peuvent imaginer, penser à une mauvaise foi, une mauvaise volonté de la part de la CENI. Vous-même venez de dire dans la revue de presse ici, au capitaine vient de dire, ce qu'il y a comme contradiction aujourd'hui entre la CENI et la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Avec toutes les injustices sociales, c'est ce qui fait le lit de toutes les frustrations et de toutes les craintes qui se caractérisent aujourd'hui bon nombre de Congolais.
Ce qui veut dire, que Jean-Baptiste Badera, que vous êtes d'accord avec Younous Gabala de Kinshasa, qui dit que la possibilité ou l'impossibilité n'est pas le problème. La SADC n'est pas un organe composé des hommes sérieux. En Afrique, nous manquons des hommes exemplaires ou des modèles pour l'Afrique. Si vous voyez leurs analyses, c'est toujours encourager les dictateurs qui détruisent les pays africains. C'est bien ça ce que vous pensez aussi?
Mais tout à fait, c'est une alliance contre nature. Vous voyez vous-même Thabo Mbeki qui est en train de mordre de la poussière dans son pays avec ce qu'il y a aujourd'hui comme l'image de l'ANC, ce parti politique en tout cas, qui a fait la fierté de toute l'Afrique, qui est aujourd'hui terni à cause de ses comportements, là même de l'Afrique du Sud. C'est donc pas la personne la mieux indiquée pour donner une quelconque leçon aux Congolais par rapport aux élections, surtout qui n'est pas le porte-parole de la CENI, surtout aussi qu'il contredit complètement l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui, elle, demande que les élections soient organisées avant fin 2017.
Voilà. Merci.
Donc, en tout cas, ce n'est pas là un bel exemple qu'on puisse voir de ce côté-là, qui puisse édifier les Congolais par rapport à la tenue de cette
des élections.
Encore que nous venons, il n'y a pas longtemps, de célébrer le 57e anniversaire
de l'indépendance. Je vous redonne la parole, Jean-Baptiste Badera. Harold Badibanga, vous avez entendu Dominique Dinanga et Jean-Baptiste Badera qui, eux, mettent en avant la volonté politique du pouvoir en place d'organiser les élections. Comment vous leur répondez, tout en répondant aussi à la question de savoir comment sortir de cette impasse? Harold, vous nous entendez? La réalisation va nous aider à retrouver Harold Badibanga. Dominique Dinanga, dites-nous, comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse pour conclure sur ce sujet?
J'allais d'abord revenir sur la crédibilité même de Jacob Zuma. Venant de lui, une telle déclaration ne pouvait même pas surprendre. Il y a un auditeur qui a dit là que c'est ça même le prototype des chefs d'État africains. Moi, j'ai toujours considéré l'Union africaine comme une agglomération, le syndicat de dictateurs.
Là, c'est la SADC.
Protège entre eux. Voilà, voilà, la SADC fait partie de l'Union africaine. Ce sont les mêmes chefs d'État qui sont aussi dans l'Union africaine.
Alors maintenant, comment sortir de cette impasse?
Il a pris position. Il a simplement pris position. Il devait attendre. Crédibilité de Jacob Zuma. Jacob Zuma, aucun chef d'État sud-africain n'a jamais aussi été contesté que lui depuis l'apartheid. Jacob
oui,
Zuma.
Oui, mais d'accord, Dominique.
Voilà, voilà, voilà.
Parlons maintenant des solutions. Comment sortir de cette impasse?
La solution la plus simple, c'est la volonté politique. Si le pouvoir en place pouvait revenir à la bonne conscience, si l'opposition que nous avons devait donc comprendre son rôle et savoir qu'elle est là, bien sûr, pour faire la pression afin que les choses reviennent à l'ordre.
D'accord.
Je crois que les choses vont aller au lieu d'accompagner le pouvoir. Donc l'opposition, en quelque sorte, se détrompe aussi de sa mission. Il faut faire la pression sur ces pouvoirs pour que les choses reviennent dans l'ordre.
D'accord. La réalisation me fait signe que Harold Badibanga est à nouveau avec nous. Harold, vous nous entendez? On va le retrouver d'un moment à l'autre. Jean-Baptiste Badera, quelle est selon vous la solution pour sortir de cette impasse?
La solution serait a priori la volonté politique, mais comme on le sait, il ne faut pas attendre cette bonne volonté politique dans les chefs de politique congolais, surtout ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui manifestement, au vu de leurs actes, ne sont pas prêts à amener les pays à des élections dans les délais prévus. Alors, pour moi, la solution serait que la CENI, qui est quand même composée des Congolais, et j'espère qu'ils aiment les Congolais, je les appellerai à un leadership exemplaire, de publier ce calendrier avec toutes les contraintes possibles, quitte à ce que les acteurs concernés se retrouvent autour d'une table pour trouver une solution, parce que là où il y a les hommes, les solutions ne manquent pas, et c'est seulement à ce titre-là qu'on peut sortir des sentiers battus, parce que franchement, on voit que les choses ne marchent pas comme il faut en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, et la réalisation me fait signe que cette fois-ci, Harold est avec nous. Harold, vous êtes là?
Oui, je suis également là.
Alors voilà, vous allez répondre très rapidement à Dominique et Jean-Baptiste qui mettent en avant la volonté politique du pouvoir en place de ne pas aller aux élections, tout en critiquant un tout petit peu le président de la SADC. Et dites-nous aussi comment sortir de cette impasse.
Non, écoutez, je disais que lorsqu'on contredit le point de vue de la SADC, on le dit sans aucun argument, dans la mesure où eux-mêmes reconnaissent que c'est l'un des rôles importants de la SADC, c'est aussi la protection de la démocratie. Et la meilleure protection de la démocratie ne veut pas dire être carré en disant les élections, c'est seulement à telle date.
Mais est-ce que ça signifie qu'il faut soutenir carrément les chefs d'État en place?
C'est respecter aussi les contraintes qu'eux-mêmes reconnaissent, parce que Dominique venait de dire urbi et orbi qu'il est clair qu'on n'aura pas les élections au mois de décembre. Donc c'est bien bon quand lui le dit, c'est mauvais quand c'est la SADC qui le dit. C'est cette façon de comprendre ou de faire les choses qui prouve qu'on n'a pas la volonté de comprendre, quand bien même ce qui est à comprendre est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Ça, c'est de un. De deux, j'aime bien hein, quand on parle de manière très fantaisiste de la volonté politique, du pouvoir en place, de ne pas organiser les élections. Mais non, je dis que dans ce pays, c'est avec l'appui de la majorité présidentielle que la CENI a publié des calendriers électoraux à plusieurs reprises. Et Dominique, mon compatriote qui est à l'aise de la RDC,
Jean-Baptiste,
qui ont rejeté ces calendriers électoraux à plusieurs reprises. Peuvent-ils avoir la main sur leur cœur et me dire si ces calendriers n'étaient pas rejetés à plusieurs reprises par l'opposition en République démocratique du Congo, si on en serait toujours là avec ce processus électoral? Non, on serait allé loin. Et puis, de trois, je refuse de manière véhémentielle la phrase légendaire, elle est sortie de je ne sais pas moi qui, c'est parce qu'on n'a pas d'argent, faute de moyens, que les élections ne sont pas organisées. Non, écoute mon frère, financer un processus électoral ne se fait pas en l'air. On finance un calendrier électoral. J'ose croire que si le calendrier électoral était effectif et n'avait pas été rejeté par l'opposition, on avait, je me rappelle que Matata Ponu avait commencé à financer ces élections palier par palier. Mais c'est faute de calendrier électoral que cela n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que de la même manière que l'on pense que le pouvoir en place y est pour quelque chose, mais la grande partie de la responsabilité, c'est d'abord l'opposition qui a agi en toute irresponsabilité.
On a compris votre préoccupation. On passe tout de suite à notre deuxième thème de la soirée parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On parle cette fois-ci de cette manifestation Debout Congolais, Lèvons-nous et Sili, c'est fini. Ce sont des slogans qui lancent et promeuvent 32 signataires du manifeste du citoyen congolais adopté à Paris le 18 août dernier. Ces signataires, acteurs de la société civile et des mouvements citoyens, analyse la situation qui prévaut en RDC qu'il qualifie de crise sociopolitique. Le professeur André Mbata, l'un des organisateurs de cette manifestation, explique le sens de cet appel au micro d'Alain Irung.
Des Congolaises et des Congolais se sont retrouvés à Paris pour lancer un appel. Et c'est cet appel-là que nous avons appelé Manifeste du citoyen congolais. Et c'est en réalité ces Congolaises et ces Congolais, porteurs chacun d'une faction de la souveraineté nationale, qui ont décidé de se mettre debout pour dire et Sili, Inene, Kouajiki, Inaïcha, c'est terminé. Terminé la tragédie et dans laquelle notre peuple a été prolongé depuis plusieurs années. C'est terminé avec toutes ces manœuvres de fraude à la Constitution. C'est terminé avec tous ces relents autoritaires dans le pays. Il faut retourner à l'ordre constitutionnel. Il faut se mettre debout pour cela. Ceux qui ont participé à la rencontre de Paris n'ont pas mis en place ces mouvements insurrectionnels comme on l'entend. Ils n'ont pas fait un coup d'État, mais ils ont voulu s'assumer et pour défendre la Constitution de la République.
Le professeur André Mbata a été l'un des co-débatteurs de l'émission Dialogue entre Congolais présentée par Alain Irung. En réaction, pour être complet sur ce dossier, le porte-parole du gouvernement affirme que les objectifs ayant conduit à la signature du manifeste du citoyen à Paris par certaines structures de la société civile et des personnalités sont contraires à la Constitution. Pour le ministre Lambert Mende, seul le peuple a le pouvoir de décider sur son destin conformément à la Constitution. Harold Badibanga, je reviens à vous. Comment vous analyser ce mouvement ou cet appel qui a été lancé depuis Paris?
Non, mais il est tout à fait clair que l'opposition en République démocratique du Congo, lorsqu'elle parle de la Constitution et même du respect de l'article 64, elle fait malheureusement une lecture sélective de cet article alors que la Constitution doit être lue in globo, c'est-à-dire les articles de la Constitution sont comme les versets de la Bible, ils dépendent les uns des autres. C'est vrai que les citoyens congolais peuvent raisonner, cogiter autour de la bonne marche de leur république. C'est légitime pour eux de penser qu'ils peuvent prendre le pouvoir, mais il faut le prendre légalement. Il faut le prendre légalement sans aller dans les moyens prohibés par la Constitution de la République. Inaïcha, Kouajiki, tout ça, c'est bien bon des slogans qu'il faille dire, alors que le processus électoral est en cours. C'est dire très clairement, il faut qu'on aille, qu'on soit jusqu'au boutiste dans le raisonnement plutôt. Au-delà de ce que nous avons, nous avons fouillé, nous nous sommes rendus compte qu'est-ce qu'il y a comme organisation en Europe maintenant? C'est une conspiration contre la République, parce que nous avons oui dire qu'il y a un homme d'affaires américain qui s'appelle Soros et qui a financé ces assises-là et qui est en train de financer l'opposition congolaise dans le sens de la prise d'armes. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu le tweet de Moïse Katumbi, ce n'est pas pour rien que vous avez suivi la déclaration
Harold, s'il vous plaît. Donc, ça signifie que vous pensez que c'est une activité, c'est une manifestation vouée à l'échec parce que ne respectons pas la Constitution, en un mot?
Effectivement, dans la mesure où le peuple congolais est de plein pied dans le processus électoral.
Merci.
Et que nous regardons la CENI parce que nous attendons aller aux élections.
D'accord.
Et le gouvernement de la République a, entre autres, comme responsabilité prérogative régalienne la sécurisation des personnes et de leurs biens.
Merci.
Quiconque viendra donc avec une vendetta, une conspiration dans le sens de faire couler le sang des Congolais innocemment, en tout cas fera face aux forces de la République, c'est tout à fait clair.
D'accord.
Harold, état de droit
qui
ne
vous...
peut pas permettre qu'il y ait de la vendetta dans une République.
Je vous redonne la parole, Harold, pour conclure d'un moment à l'autre. Jean-Baptiste et Augustin, Jean-Baptiste Badera, vous êtes à Bukavu. Augustin Tendilong est de Bukavu aussi, prédit déjà un échec dans cette démarche. D'autant plus que, dit-il, la MP avait réussi dans les deux dialogues, celui de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre, à faire avaler à tous les acteurs politiques l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Et je me demande, poursuit-il, par quelle magie il compte organiser une transition sans le président Kabila.
Oui, merci beaucoup, mais il faut dire que, bon, c'est justement ça le problème. Hein. Je les ai suivis au lendemain de leur sortie à Paris. Dans leur déclaration, ils ont estimé qu'ils ne veulent pas donner toutes les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour arriver à cette transition sans Kabila. Donc, le mot d'emploi n'est pas bien connu, mais comme première étape, selon ce que j'avais suivi, si j'avais bien suivi dans les médias, ils avaient estimé qu'ils vont d'abord vulgariser cette, comment ils ont appelé ça, ce manifeste,
oui, ce manifeste
congolais qui a donc été présenté à Paris. Donc c'est ça la première étape et la suite on verra. Mais c'est déjà compliqué, mais je crois par rapport à cette transition sans Kabila, comment ça va se faire, c'est une interrogation. Mais aussi la transition avec Kabila, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui parce que nous sommes déjà dans la période transitoire. Et cette période transitoire, c'est même là les sujets qu'ils vont débattre ici. Et c'est ce qui même amène les gens à faire pression sur la CENI pour que ce calendrier soit là, qu'on puisse au moins voir où est-ce qu'on va, une feuille de route qui puisse montrer aux Congolais là où on va. C'est toutes ces inquiétudes-là qui sont à la base des créations de tels mouvements. Parce que, comme je l'ai dit, champ échaudé craint l'eau froide et toutes les stratégies qu'est en train de développer aujourd'hui la majorité montrent la suffisance qu'elle n'est pas prête à aller vraiment aux élections.
D'accord.
Et Jean-Baptiste, montre effectivement que ça ne sera pas facile d'aller aux élections dans les délais souhaités par les Congolais.
Et je vous redonne la parole. Jean-Baptiste, rapidement. Jean-Baptiste, oui. S'il vous plaît, une petite question rapidement parce qu'on tend déjà vers la fin de notre émission. Est-ce que vous pensez que cette démarche des compatriotes congolais à Paris est contraire à la Constitution? Très rapidement.
À mon avis, non, elle n'est pas contraire à la Constitution, contrairement à ce que mon confrère a dit, parce que à moins qu'il y ait d'autres agendas cachés, mais un mouvement que je pense citoyen, qui est non-violent et qui veut juste faire entendre la voix pour aller aux élections, en quoi elle est contre la Constitution.
Merci beaucoup. Dominique, rapidement, dites-nous comment vous avez, comment vous comprenez une nouvelle transition sans le président Kabila?
Pour parler d'abord de ce manifeste Essili, bon, je crois que les amis du pouvoir en place s'agitent un peu chaque fois qu'on parle des débats congolais. On se souvient de ce qui s'est passé quand la CENCO a parlé des débats congolais. Pourquoi on pense toujours à un coup d'État ou à une méthode violente? Non, débats congolais, ce sont les termes de notre hymne national. Il s'agit d'un groupe de Congolais soucieux, bien sûr, de l'avenir de leur pays. Ils trouvent que leur population est en train de croupir dans la misère. Moi, j'ai toujours dit que la vraie opposition, aujourd'hui, ce ne sont pas ces gens-là qui se font appeler opposants, mais la vraie opposition, c'est cette population qui croupit dans la misère, c'est cette population qui est payé encore au taux de 92, alors que le dollar aujourd'hui atteint environ 1600 francs congolais pour un dollar. C'est ça la vraie opposition. On peut monter, on peut descendre. Où est la place de la population dans toutes ces manœuvres?
Rapidement,
voilà.
Franklin Mackoumaini,
ce qu'ils font n'est pas contraire à la Constitution. L'article 23 de la Constitution dit que toute personne a le droit à la liberté d'expression. Et ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Et il est clairement dit dans le manifeste qu'il faut une transition, et pour avoir cette transition, il faut passer par des actions pacifiques, c'est dit clairement.
Mais voici quand même cette question de Franklin Mackoumaini de Bukavu qui veut comprendre comment toutes les grandes décisions sont toujours prises à l'étranger, mais dont les résultats ne sont jamais vécus au pays. Parce qu'il continue en disant que voilà encore une fois une stratégie ratée pour ses compatriotes, et c'est même le problème de ces mouvements citoyens qui semblent ne détenir aucun plan d'action et sont toujours tourner vers l'extérieur. Très rapidement, on arrive déjà vers la fin de notre émission.
Pourquoi des réunions à l'extérieur du pays? La question qui revient, pourquoi pas ici? Comment voulez-vous qu'ils agissent face à un pouvoir qui a transformé les forces de sécurité en une machine répressive? Comment voulez-vous qu'ils agissent devant un pouvoir qui viole constamment les articles 25 et 26 de la Constitution qui garantissent la liberté des réunions pacifiques et des manifestations?
Très bien.
Comment
alors,
voulez-vous qu'ils agissent?
On comprend, mais rapidement, pour conclure, quelle chance donnez-vous à ce mouvement, à cet appel des citoyens congolais qui sont à l'étranger? Rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission.
L'idée n'est pas mauvaise. Quand on est devant un problème, il faut aussi envisager des solutions. Aujourd'hui, continuer à parler du respect de la Constitution au niveau de la majorité présidentielle, c'est insulter cette population. Nous sommes dans un cadre d'abord qui n'était pas prévu dans la Constitution. Aujourd'hui, on est en train de nous faire avaler la pilule amère, la mauvaise interprétation de l'article 70 de la Constitution. Mais il faut savoir que l'article 70 de la Constitution parle de ce qui devrait se faire au cas où il y avait élection. Aujourd'hui, nous sommes déjà en dehors de la Constitution et les efforts doivent être conjugués pour revenir à la constitutionnalité.
Merci.
Et quand
beaucoup,
on remarque
c'est
que
ça,
le pouvoir
n'a
pas bien sûr cette volonté de remettre les choses en ordre, qu'est-ce qu'on doit faire?
Merci, c'est ça votre conclusion.
Prenez-vous
s'il vous
en
plaît,
charge.
S'il vous plaît, Dominique, ce sera ça votre conclusion. Jean-Baptiste Badera, votre conclusion, quelle chance accordez-vous à cet appel des Congolais?
Oui, je donne la chance, il faut toujours oser, parce qu'on ne peut pas laisser le pays, ou on ne peut pas prétendre servir un peuple par une gouvernance qui bafoue la Constitution. Et tout ça sont des intimidations qu'on montre que c'est anticonstitutionnel. Soit qu'ils sont libres, ce sont des Congolais qui ont les droits de se déterminer par rapport à une situation que tout le monde trouve de très très dangereuse, avec des terrorisations, des tactiques, des stratagèmes qui sont mis en place pour ne pas aller aux élections.
Merci beaucoup, Harold Badibanga. Un mot en guise de conclusion, quelle chance accordez-vous à ce mouvement?
Diabolico, mephistophélico, satanique est voué à l'échec, parce que contrairement à l'ironie utilisée par mes deux co-débatteurs, il s'agit de la prise d'armes, de la prise de pouvoir par la force, des moyens qui ne sont pas autorisés ni acceptés par la Constitution, des moyens que le peuple congolais dans sa totalité n'aime plus. Par jurisprudence, nous savons que Kinshasa a été mise en place en feu à sang au mois de septembre, après l'autorisation d'une marche pacifique. C'est ça, le pacifique qui a fait que des sièges des partis politiques, les banques aient été pillées.
Merci
beaucoup.
Nous
disons non à cette façon de voir les choses, parce que c'est contre le sens de la paix, le sens de la souveraineté du peuple congolais. C'est
merci beaucoup, Harold Badibanga. Nous... C'est avec vous que nous allons finir cette émission. Vous, Harold Badibanga, merci beaucoup. Vous avez été journaliste indépendant. Vous êtes journaliste indépendant basé à Kinshasa. Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa. Et Jean-Baptiste Badera, directeur de la radio-télévision Canal Futur, émettant à Bukavu, au sud Kivu. Merci à vous d'avoir animé le débat de ce soir. Cette édition a été coordonnée, réalisée par Alain Irung, supervisée par Pelé Kipela Mondo, mise en onde par Polydor Basunga et présentée par Berry Franklin Luchaka. Fidèles auditeurs, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la Fréquence de la Paix.